Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Nous sommes à Séoul pour le nouveau roman événement de Jean-Marie Gustave Le Clézio. Nous irons aussi en Belgique, dans les rues de Molenbeek, avec l'écrivain Foy de la Rouy. Émission spéciale reportage, donc aujourd'hui dans votre émission culturelle internationale. Jean-Marie Gustave Le Clézio publie un nouveau roman aux éditions Stock le 28 mars. Bitna, sous le ciel de Séoul, est et sera le grand roman populaire du prix Nobel de littérature. Un livre qui va séduire un très large public. Nous allons déambuler dans la ville de Séoul avec lui cette semaine, mais aussi la semaine prochaine, pour cet entretien exceptionnel, une exclusivité radio que vous n'entendrez que dans la librairie francophone. Nous irons aussi en Belgique, à Molenbeek, avec l'écrivain Foy de la Rouy, 2 ans après les attentats de Bruxelles, le 22 mars 2016. Nous irons sur les lieux qui ont été au cœur de l'actualité. Et puis direction Tahiti, avec une nouveauté dans le rayon des livres de poche. L'auteur Anna Krish propose un roman flamboyant sur la société tahitienne et sur la figure de Marlon Brando.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Kérad.
Bonjour Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Bonjour Emmanuel.
Nous sommes à Séoul, ici, en Corée du Sud, pour votre nouveau livre qui vient de paraître aux éditions Stock, Bitna, sous le ciel de Séoul. On est ici et on domine la ville. On est sur une colline, la pointe de la radio qui est juste derrière nous. C'est un lieu très emblématique dans le livre.
Oui, nous sommes à Namsan, c'est-à-dire la montagne du Sud. C'est une ville qui est semée de collines. Et il y a peut-être une vingtaine de collines dans cette ville. Et chaque colline est laissée à l'état naturel. Ce n'est pas construit. Sauf que certaines collines sont occupées par un temple bouddhiste. Et je crois que ça donne un esprit particulier à cette ville. C'est une ville qui est posée dans la nature, au milieu des montagnes. En même temps, c'est très proche de la mer, au bord d'une rivière qui est extraordinairement large et puissante. Et donc, il y a une présence de la nature très forte à Séoul.
Derrière nous, il y a un groupe folklorique, justement, sur ce plateau qui domine la ville. On a toute l'étendue de Séoul devant nous avec un nombre considérable d'immeubles, avec des collines, c'est très vallonné effectivement. Votre personnage Bitna va sillonner la ville, on va sillonner la ville à notre tour puisque c'est ça aussi l'objectif d'être ici avec vous, Jean-Marie Gustave Le Clézio. On va finalement tourner le film radiophonique de votre livre. Avant de partir, quelle est votre sensation quand vous arrivez à Séoul? Quelle est l'ambiance, le son, l'odeur qui vous marque le plus?
Je dirais que c'est la couleur du ciel, l'atmosphère. Il y a un côté un peu brumeux dans cette ville parce qu'on est au bord de la mer, il y a des changements climatiques. Un air couleur de perles, un air un peu diffus. Et ça m'émeut beaucoup, cet aspect presque irréel de l'atmosphère. On voit ça en particulier quand on arrive à l'aéroport à Incheon, près de Séoul. On voit les étendues où la mer et la terre se rencontrent, se confondent. Et cette couleur grise, cette couleur perlée, ça donne un sens particulier au voyage ici.
Exactement. Quand on arrive comme ça, on voit des îles et on arrive quasiment sur la mer. C'est très étonnant, l'atterrissage ici à Séoul. On va se balader dans la ville avec vous, Jean-Marie Gustave Le Clézio, et dans la librairie francophone cette semaine. Et on quitte cet espace ici à Séoul avec la pointe de la radio, l'émetteur radiophonique immense qui domine la ville. C'est très symbolique évidemment pour nous. Et on va se diriger vers la ville. Qu'est-ce qui vous a amené en Corée à un moment, Jean-Marie Gustave Le Clézio? Qu'est-ce qui vous a donné ce déclic de venir ici, d'y vivre un certain temps d'ailleurs?
Oui, j'y ai passé un certain temps. J'étais d'abord invité pour une rencontre d'écrivain. Et là, on m'a dit, est-ce que vous accepteriez de donner des cours à l'université de Iwa, université féminine? Ça m'a paru une idée intéressante. Alors, j'y suis resté.
Alors ici, il y a 11 millions d'habitants à Séoul. Sur l'agglomération, 22 millions. C'est à peu près la moitié de la population du pays, puisque la Corée du Sud compte 50 millions d'habitants. Donc c'est très concentré, il y a énormément de monde. Dans ce quartier en particulier, quartier avec des boutiques d'artisanat, différentes boutiques, qu'est-ce qui vous intéresse ici dans le quartier Isadong?
C'est un vieux quartier d'abord. C'est un quartier qui a échappé en partie à la destruction de la guerre. Parce que Séoul, ce sont deux villes séparées par la rivière Han. Il y a Gangnam et Gangbu. Ici, on est à Gangbu, c'est la ville du nord. Gangnam, c'est la ville du sud. La ville du sud est moderne, avec des gratte-ciels. La ville du nord, c'est plutôt les vieux quartiers, des impasses, des endroits quelquefois un peu louches. Et tout ça, ça donne un charme à Gangbu.
Alors c'est ça qui vous aussi motive pour l'écriture, parce que dans votre nouveau roman, il y a des endroits louches, comme vous dites. Il y a des endroits pas très fréquentables. Il y en a qui sont plus apaisants. Et on a vraiment l'impression de cette déambulation dans la ville de Séoul. Et pourtant, c'est une très grande ville. On n'imagine pas à quel point. Et vous arrivez finalement à l'humaniser, cette ville, dans le livre.
Oui, c'est une ville qu'il faut parcourir en métro, en bus. Parce que si on allait à pied, on y passerait sa vie. On ne pourrait pas aller d'un bout à l'autre.
Pourtant, vous êtes un grand marcheur, vous.
Oui, je suis un marcheur.
Vous n'avez pas fait Séoul à pied entièrement?
Pas encore.
Non, pas encore.
Et oui, c'est. Mais je crois que ça a une bonne. On a une bonne image de ce qu'est la cité moderne, la cité de l'avenir. C'est avec ce mélange d'inachevé, d'imparfait et de techniques extraordinairement performantes. C'est quand même une ville où on m'a appris il y a quelque temps, ça ne s'est pas encore fait, qu'on devait construire un nouvel aéroport. Et pour faire le nouvel aéroport, il fallait raser un quartier entier de la ville et reloger les gens. Donc pour les reloger, construire une sorte de pyramide qui aurait fait 800 mètres de haut, et dans lequel on allait reloger une partie de ces 11 millions dont vous parlez. Pour l'instant, ça bute sur quelque chose, je ne sais pas sur quoi.
C'est fou, pas encore plus. Tout est possible en fait ici.
Tout est possible.
C'est un peu le pays de la démesure. De la démesure ou de la surenchère vis-à-vis des autres pays asiatiques voisins?
Je ne sais pas si c'est l'idée de la surenchère. C'est l'idée qu'une ville, ce n'est pas un monument stable. C'est en mouvement, ce n'est pas arrêté. Mais les jeunes adorent ça. Les jeunes, ils aiment bien Gangnam. Ils n'aiment pas Gangbu. Ils aiment bien...
C'est à la mode, là.
Oui, c'est la mode.
Il y a même un courant musical qui est né là-bas.
Oui, exactement.
La K-pop, comme
on dit. L'idée de la place de village où les anciens se réunissent, ça ne parle pas beaucoup à la jeunesse coréenne.
Dans ces rues très colorées d'Insadong, quartier populaire, quartier commerçant, quartier qui permet aussi de voir une certaine réalité à Séoul, en Corée du Sud. Des échoppes un peu partout et puis des camelots aussi qui sont là à proposer des services de couture, à vendre des babioles, porte-clés ou ceintures ou autres colliers. Et puis des sortes d'échoppes aussi dans lesquelles on peut se fournir en cosmétiques ou bien aussi en vêtements ou en nourriture. Tout est mélangé ici. Vous pouvez nous décrire ce qu'on voit là juste devant nous, puisqu'on arrive sur un autre site, un autre lieu ici à Séoul.
Oui, on arrive après avoir traversé des petits quartiers fort sympathiques. On arrive devant ce grand palais avec ses toitures incurvées. Semble-t-il, ont été entièrement reconstruits dans le Geographical Magazine dans les années 50. Il y avait des photos de Séoul, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. C'était Ground Zero. On avait rasé la ville complètement. Donc tout a dû être fait.
Alors qu'autrefois, il y avait des petites ruelles qu'on a vues d'ailleurs en passant. On a traversé un quartier commerçant avec des bars, des restaurants. Tout a été refait. Puis derrière, comme une arrière-cour, une arrière-salle, il y a ces petites ruelles très très étroites. Et tout Séoul était construit comme ça.
Exactement. Oui, c'était une ville ancienne. C'est une ville qui avait survécu à toutes les invasions. Mais la guerre moderne a eu raison de toute cette architecture.
Vous arrivez, vous, Jean-Marie Gustave Leclésio, de vous retrouver dans un lieu et de vous mettre à écrire? Vous avez besoin d'un cadre particulier?
Ah oui, je peux écrire n'importe où. Mais de préférence dans un endroit qui ne soit pas trop bruyant, mais je n'ai pas besoin d'être à un bureau dans un endroit qui m'est familier. J'aime bien en fait être dépaysé et c'est pourquoi j'aime bien me déplacer. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui voyage, mais je me déplace. Et ça me permet d'avoir d'autres habitudes, d'entendre d'autres sons. Je ne suis pas attaché strictement au son de la langue française. J'aime bien entendre les autres sons.
Le son du monde.
Oui, les langages humains sont tellement variés, c'est tellement enrichissant, même d'entendre une langue dont on ne comprend pas les mots. C'est pour moi, c'est un grand plaisir. Il y a des gens à qui ça fait peur, mais moi, au contraire, ça me fait vraiment plaisir.
Est-ce que ça a changé votre personnalité, ça, justement, ces voyages, cette rencontre, cette façon d'aller vers l'autre tout le temps? Est-ce que ça a changé quelque chose en vous?
Bien, c'est vrai que je suis né à Nice et j'ai grandi à Nice, qui était une ville assez refermée. Et donc, ça m'a donné le sentiment de la réalité du monde, beaucoup plus que la ville de Nice. Mais c'est bien aussi d'avoir grandi dans un quartier. Cela dit, j'étais un Niçois sans lettres parce que ma famille était mauricienne, donc on n'était pas très adapté à la ville de Nice. Nous n'avions pas les mêmes habitudes, ni même le même aspect physique. Donc c'était. Ensuite, en voyageant, j'ai eu le sentiment de rencontrer des gens qui m'étaient plus proches que les Niçois, alors que je ne les connaissais pas.
Chang Dan Kong Palace. Jisoo, vous êtes interprète ici à Séoul, guide aussi. On est arrivé comme ça ici dans ce palais impérial. Il y a beaucoup de personnes en habits traditionnels, dans des costumes. Vous pouvez nous dire pourquoi?
Ah, parce que si on porte la costume traditionnelle coréenne, l'entrée est gratuite.
Oui. Et alors ces costumes, qu'est-ce qu'ils représentent? Parce qu'ils sont très élaborés, ce sont des costumes vraiment très beaux, très bien faits.
Ah, on portait la costume pendant les fêtes, comme le Nouvel An, c'est la costume typique coréenne.
D'accord, donc c'est une façon de perpétuer la tradition, oui. Et de savoir, de rester comme ça sur ses racines, de savoir d'où l'on vient.
Oui, c'est ça.
Merci Jisoo, merci beaucoup. Voilà, on arrive dans ce grand jardin que vous aimez beaucoup, Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Oui, ce sont des très jolies constructions, parce que ce sont des constructions qui sont transparentes, on passe à travers, dans les grandes portes, avec des espaces à l'intérieur. Enfin, il faut imaginer ça à l'époque des rois, on ne devait pas pouvoir se promener aussi facilement.
C'est vrai qu'on passe d'un espace à l'autre, comme ça, avec des sortes de pavillons, des sas ouverts, hein, oui. Comme les portes d'une ville.
Oui, c'est tout dans la perspective. C'est très géométrique.
On va laisser la place à nos libraires francophones qui attendent votre roman avec impatience. Il sort le 28 mars et en librairie, on se prépare. Est-ce un événement en Belgique? La sortie d'un nouveau Le Clézio, Déborah Damblon, vous qui êtes dans la librairie La Licorne à Bruxelles.
Eh bien, en fait, Emmanuel, oui et non, si j'ose dire. Si je veux faire une comparaison, je vous dirais un Le Clézio qui arrive, ben c'est un petit peu comme le printemps qui pointe. Il se suffit à lui-même, vous voyez. On sait qu'il est sur nos tables et qu'on peut commencer avec une jolie pile, mais sans ostentation, hein, pas des gros machins. Et puis on sait qu'on va pouvoir la regarnir très longtemps et partager pendant un long, long moment le plaisir de lecture avec ceux qui vont venir l'acheter, puis le lire, puis le racheter, et puis l'offrir, et etc. Ça va durer.
Merci Déborah. Anne-Rosine Vosa, vous qui êtes libraire dans la librairie Le Papillon Bleu à Fort-de-France, comment est perçu Jean-Marie Gustave Le Clézio en Martinique?
Alors nous attendons avec impatience la sortie de son livre, et parce que les romans de Jean-Marie Le Clézio nous sont très familiers, particulièrement le cycle mauricien, parce que nous, en fait, nous sommes des insulaires, donc ce sont des choses qui font écho à ce que nous sommes. Et nous avons été très marqués aussi par la façon dont il décrit la nature humaine dans Ritournelle de la faim, avec des mots simples mais très efficaces. Donc c'est un événement.
Dans votre livre, il y a beaucoup d'histoires, des histoires qui sont très empreintes comme ça de cette culture coréenne. Il y a un mélange, vous êtes vraiment, vraiment imprégné de cette culture-là. Elles viennent d'où, vos histoires?
Elles viennent d'un peu partout. des histoires qui appartiennent aux légendes coréennes, comme l'histoire des deux dragons. Je me souviens avoir vu ça dans une encyclopédie. Il y avait une image où on voyait deux dragons enlacés et on disait que le jour où ils se réconcilieraient vraiment, le jour où ils seraient vraiment en harmonie, la paix régnerait sur le monde. Donc on peut toujours espérer que ça va se réaliser. Puisque là, en ce moment, les dragons ne sont pas en bonne communion l'un avec l'autre. Et puis des histoires qui sont des histoires que j'ai lues dans la presse ou que j'ai entendues raconter par des personnes, comme l'histoire de cet homme qui élève des pigeons pour les envoyer vers la Corée du Nord pour apporter des messages de paix à la Corée du Nord. Donc ça, ce sont des histoires vraies.
Alors du coup, votre personnage les raconte à son tour à une jeune fille malade. Pour revenir rapidement sur les dragons, il y a deux dragons qui s'affrontent en ce moment. Le dragon du Nord, le dragon du Sud, avec un dragon alternatif, celui des États-Unis. Vous étiez justement à Séoul au moment où on a appris ce fameux pacte, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas cette rencontre envisagée entre Trump et le leader nord-coréen. Quelles ont été les réactions ici à Séoul ?
Oui, moi j'ai appris ça comme vous par la presse. Alors on se demande toujours si ce que ça cache. Parce que on est tout de même en face de, de psychopathes, d'un côté comme de l'autre. Et ça me fait penser un peu à... Bon, enfin, c'est un peu absurde, mais ça me fait penser un peu à ces émissions de télévision qu'on voit au Canada, dans lesquelles des catcheurs se mesurent l'un à l'autre. C'est celui qui parlera le plus fort, il raconte des blagues. Personne n'y croit, mais en même temps, on applaudit. Donc c'est un peu ce côté voyeur et voyant. Donc je suis pas entièrement convaincu par les catcheurs. Mais je sais que les Coréens attendent depuis longtemps cette réconciliation, ils la demandent. La réunion de ces deux pays créerait un pays qui ne serait plus la crevette entre la baleine et le requin. Ça ferait un pays qui aurait une force considérable.
Et le médiateur pour les deux Corées, c'est forcément l'Amérique ?
Non, ce sont les Coréens qui doivent construire ça eux-mêmes.
En tout cas, c'est le cas aujourd'hui. C'est l'Amérique. Et c'est Trump en plus.
C'est terrible, parce qu'ils n'ont aucune envie, ni d'un côté ni de l'autre, je veux dire, ni du côté de la Chine, ni du côté des États-Unis, ni du côté de la Russie, n'ont aucune envie de la réconciliation. Ils n'ont aucune envie que la Corée existe comme elle existait autrefois, que ce soit un pays puissant, ils n'en veulent pas. C'est une situation qui leur convient très bien. Mais les Coréens, j'ai fait assez confiance dans leur capacité de surmonter tout ça. C'est la jeunesse qui devra le décider. C'est à eux qu'appartient l'avenir.
On est où, Jean-Marie, là ?
Eh bien, on est à Ongdangsan, c'est-à-dire Ongdangsan, pardon, le temple qui est très voisin de l'université d'Iwa. C'est un temple bouddhiste au milieu de la verdure, au sommet d'une colline. Et donc, il faut souffrir un peu pour y arriver.
C'est vrai, on souffre un peu, mais ça va encore.
Oui, c'est joli parce que c'est un temple qui a été reconstruit. Il a dû être démoli pendant la guerre. Mais il a de jolies couleurs. Et toujours dans le style très oriental, les fleurs et les dragons qui surveillent vos angles.
C'est un pays très tolérant, la Corée du Sud, avec plusieurs religions, le christianisme, le bouddhisme. Des musulmans aussi sont représentés ici. On dit que c'est un pays très ouvert, très tolérant.
Oui, c'est la vérité. C'est un pays qui a souffert beaucoup des invasions et donc forcément de l'intolérance qui s'en suivait. Et donc ils ont été la bonne école pour accepter tous les cultes et toutes les cultures, tout en restant très fortement patriotique. C'est un pays où les gens cultivent le patriotisme avec beaucoup de soin, mais avec raison.
Dans votre roman, Bitna sous le ciel de Séoul, il y a la religion, mais qui est distillée simplement parce que vous l'évoquez, un peu comme un respect quelque part, comme si vous étiez non pas obligé de le faire, mais par tolérance et par ouverture et par respect, comme l'est d'ailleurs votre personnage.
Oui, je pense que Bitna, elle ne peut pas ne pas être séduite par l'idée de la réincarnation, parce qu'elle est devant quelqu'un qui est en train de mourir peu à peu, et les histoires qu'elle raconte ne se terminent pas toutes bien. Et la réincarnation, c'est un moyen de faire terminer les histoires, de les faire rebondir dans une autre dimension. Et il y a en particulier une chanteuse qui s'est pendue, s'est suicidée, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes en Corée. Et là, nous écoutons le son du gong.
Ah oui, qu'on entend derrière, qui est dans l'une des salles du temple.
À la prière, donc ça doit être à l'autre temple.
Ouais. Là, on voit des gens prier, là, juste au-dessus, avec Bouddha, là, un Bouddha tout blanc.
Oui, en effet. Donc, c'est un lieu pour dire qu'on espère en quelque chose. Peut-être qu'ils sont en train de prier pour que la réconciliation des Corées se fasse. Après tout, je ne vois pas qui d'autre que Bouddha pourrait donner ce bénéfice. Et même si je suis complètement agnostique, j'ai une foi absolument en rien, je suis ému par la foi des autres. Et c'est une façon de dire qu'il faut des miracles. Quand les situations sont désespérées, on n'a plus aucune autre raison de croire qu'en un miracle.
Elle est désespérée, là ?
Assez désespérée, oui, parce que, en fait, ce sont deux pays qui n'ont jamais signé la paix. Ils sont en guerre depuis 1945. Et les armes n'ont jamais été déposées. On croit toujours qu'il y a... Tout est normal, mais on oublie que cette guerre, qui a commencé en 1945, elle dure encore aujourd'hui. On est dans un des épisodes de la guerre. Il y a eu des moments de calme et il y a des moments de tension. Mais les soldats sont prêts de chaque côté. Quand les soldats sont prêts, c'est que la situation n'est pas bonne. Mais quand je parle de la foi comme d'un rempart, c'est parce que je pense que les gens qui viennent ici, supposons qu'ils allument un bâton d'encens en pensant à leur... grands-oncles ou grands-parents ou arrière-grands-parents qui ont vécu, qui sont morts de l'autre côté, ça crée un pont, ça crée un lien. Un peu comme les oiseaux que M. Cho, dans mon bouquin, envoie à travers la frontière, qu'il entraîne pour aller porter un message d'amour à des gens qui ne connaissent pas.
Les oiseaux, c'est très symbolique dans votre livre. Et c'est la capacité, finalement, de retisser le lien entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y a cette image, cette métaphore autour des oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux ici, en Corée du Sud, et notamment à Séoul. On en entend, là, ici, dans le parc de ce temple.
Oui, oui. J'aime beaucoup le monde ailé. Je pense que ce sont des privilégiés dans le règne animal. Les oiseaux, par essence, n'ont pas de frontières, sont des migrateurs. Et ils se déplacent selon leurs besoins. Les frontières pour eux n'existent pas. On dresse des murs, mais ils volent par-dessus.
Ça vous énerve un peu les frontières, hein ? Plusieurs fois, vous m'avez dit ça. La dernière fois qu'on s'est vu à Francfort pour votre roman Alma, il était question aussi des frontières. Et ça vous agace, cette notion de frontières. Je me rappelle vous avoir dit, mais les frontières ont toujours existé. Vous m'avez dit, mais non, pas du tout. Ça vous énerve un peu ?
Oui, c'est tout à fait. Hein. C'est vrai, c'est exactement le mot. Je ne supporte pas cette idée. Je ne supporte pas l'idée que... une ligne arbitraire, artificielle, créée par l'imagination, puisse empêcher quelqu'un qui en a besoin de passer à travers un champ ou de franchir la montagne. Mais on parle de frontières ici. Le chant national coréen, c'est une chanson qui s'appelle Arirang. Je ne sais pas si vous l'avez écoutée.
Non, si vous pouvez me la chanter, non.
J'aimerais bien, c'est une très belle chanson, mais on peut la trouver facilement.
D'accord. Et
j'espère que vos auditeurs pourront l'écouter.
Non, bien sûr.
Ça serait très bien.
Arirang, arirang, arariyo.
Arirang, les paroles de Arirang, c'est « Un jour j'irai de l'autre côté ». Et cette chanson est chantée aussi bien en Corée du Nord qu'en Corée du Sud. Mais en fin de compte, c'est l'histoire de l'humanité. On va voir de l'autre côté pour retrouver ce qu'on a perdu ou pour espérer une vie meilleure. Et la frontière est là pour vous en empêcher. C'est scandaleux.
C'est vrai. On va monter ces grosses marches, regardez Jean-Marie, pour arriver sur une autre partie du temple. Alors ce sont des marches très hautes.
Oui.
Attention.
Ce sont des marches pour athlètes. Ça. Un bel entraînement. La religion bouddhiste a cet intérêt d'entraîner les gens par la prosternation à avoir des articulations très souples.
Ce qu'on voit là, attendez, on a discrètement par la fenêtre, mais effectivement, c'est une salle de prière avec un Bouddha tout recouvert d'or et puis des croyants qui sont là et qui tentent de prier dans la dans le calme, oui, la plénitude.
C'est pas inutile, moi je l'ai fait. Je suis entré, j'ai pris un petit tapis, et je me suis prosterné plusieurs fois.
Mais vous ne croyez en rien, vous m'avez dit.
Non, mais j'aimais bien le mouvement de la prosternation, je trouvais ça assez agréable en fin de compte.
Et alors vous pensiez à quoi à ce moment-là ?
C'est une gymnastique et en même temps c'est spirituel.
C'est une gymnastique, Jean-Marie, vous ne pouvez pas dire ça.
Ah, si.
Parce que... c'est une croyance, vous croyez en quoi à ce moment-là ? Vous avez pensé à quoi ?
Non, mais c'est... Bon, j'étais avec des gens qui le faisaient, donc je faisais comme eux.
Oui, non, mais c'est pas une excuse du tout, ça.
Ça fait du bien.
Oui. Bon, on va penser à ça, on va méditer, on va se diriger vers un autre endroit, on va les laisser prier tranquillement avec les chaussures qui sont là, puisqu'on se déchausse évidemment avant d'entrer dans la salle de prière. Et on retrouvera Jean-Marie Gustave Leclésio ici à Séoul la semaine prochaine pour la seconde partie de cet entretien exclusif. Nous parlerons en détail de son nouveau roman qui sort mercredi en librairie chez Stock. On part à Tahiti dans un instant grâce à l'écrivaine polynésienne Anna Krish. Avant cela, voici la musique orientale et métissée du groupe Orange Blossom dans votre librairie. Blossom, Yassidi, dans la librairie francophone. Dans l'actualité des livres de poche, le roman d'Anna Krish est sorti le 7 mars chez J'ai lu. Ce livre avait été notre révélation du printemps 2017. Un livre qui vous emmène à Tahiti. Et bonjour Anna Krish.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue. Vous êtes d'origine polynésienne et tunisienne. Votre roman Il faut se méfier des hommes nus raconte le lien de Marlon Brando à Tahiti. Entre la biographie et l'analyse sociologique de la société tahitienne, on est vraiment captivé par ce livre. C'est un roman plein de surprises. En tout cas, Brando ne découvre pas seulement Tahiti lors du tournage des Révoltés du Bounty. Il en a une passion depuis l'enfance. Qu'est-ce qui l'attire autant ?
Il raconte dans son autobiographie qu'il a découvert Tahiti à 5 ans et qu'il en est tombé amoureux instantanément. Et donc, c'est vrai qu'il va la découvrir réellement dans les années 60 quand il tourne Les Révoltés du Bounty. Et il va tomber amoureux de l'île et d'une femme, mais surtout de l'île, à vrai dire.
Et qu'est-ce qui l'attire alors ?
C'est un refuge. C'est le dernier refuge du paradis. Et pour lui, Hollywood est un enfer. Et donc, il a trouvé son paradis en cette île.
Il y a votre narratrice qui s'appelle Cheyenne et qui porte le même prénom que la fille de Brando. Elle est chargée d'écrire le scénario du biopic de l'acteur. On lui dit que c'est une grosse production américaine, qu'il faut édulcorer un peu. Elle nettoie un peu la vie de Brando parce que sa vie est terrifiante. C'est un personnage instable, violent, qui détruit même, vous le dites, les personnes avec qui il a des aventures, hommes et femmes confondus.
C'est vrai qu'il n'y a que des drames qui jalonnent son existence. Et donc on connaît le drame de sa fille Cheyenne qui s'est suicidée, qui s'est pendu, dont le mari a été assassiné par son propre frère. Donc il n'y a que des histoires de meurtre, de sang et de larmes.
Mais même avec sa compagne, avec qui il aura Cheyenne, c'est terrifiant.
Toutes ses compagnes, qui d'ailleurs ont toutes écrit des autobiographies.
Oui. Et ça les a traumatisées au point de faire des psychanalyses et d'écrire des livres.
Oui, non, je crois que c'était un personnage très fascinant, mais en même temps terrifiant.
Alors Cheyenne, en tout cas, part à Tahiti, et vous décrivez la société tahitienne. Vous êtes très lucide, Anna Krish, intransigeante même. Tahiti est loin de la carte postale, on va y revenir tout à l'heure, et les Tahitiens sont libres. Ça, c'est très important parce que Marlon Brando va apprécier de ne pas être traité comme une star là-bas.
Oui, c'est ce qu'il aime. Il dit qu'il s'en fiche royalement de qui il est, de ce qu'est une star hollywoodienne. Et donc, c'est ça qu'il aime. C'est cet anonymat-là qu'il aime en Polynésie. Est-ce que les Polynésiens sont libres ? Je ne sais pas. C'est en tout cas une idée qu'on s'en fait depuis qu'on a découvert cette île.
Ils s'affranchissent des classes sociales ?
Je crois que c'est vrai qu'il y a certaines choses qui existent pour nous dans certains territoires et qui là-bas passent un peu au travers de l'existence.
Oui, on est un peu en marge, forcément.
Un petit peu. Isolé. C'est-à-dire que c'est un isolement géographique qui fait qu'on est aussi isolé dans d'autres secteurs de l'existence.
On salue les Tahitiens qui sont très nombreux à écouter la librairie francophone. Écrivez ces hommes qui végètent dans la rue, qui sont tatoués, parfois drogués. Et vous écrivez « On ne trouve rien là-bas que des rapaces rompus au soleil. Croyez-moi, il faut se méfier des hommes nus. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Ça veut dire plusieurs choses. L'homme nu, c'est l'idée générale du primitivisme, c'est le bon sauvage, c'est l'idée de cet homme nu tel qu'on l'a développé en découvrant l'île au XVIIIe siècle. Tout mon propos était de savoir ce qui se cachait derrière cet homme nu. Pourquoi est-ce qu'on a vu ça dans le sauvage tahitien ? Pourquoi est-ce qu'on l'a drapé de cette noblesse-là ? Pourquoi est-ce qu'il diffère des autres sauvages dans l'histoire des découvertes ? Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ?
Alors, vous expliquez beaucoup de choses sur la société tahitienne. Il y a la drogue qui est omniprésente dans votre livre. C'est assez troublant parce que la drogue est tout le temps là. Vos personnages se droguent, les Tahitiens se droguent, la fête aussi. Alors, vous dites d'ailleurs que les Tahitiens aiment la fête par-dessus tout. C'est un livre à charge contre Tahiti ou...
C'est pas un livre à charge, mais c'est vrai que je voulais parler de cette île qui est mon île et qui est l'endroit où j'ai grandi. Et donc, je voulais la rendre fidèlement. Et c'est vrai qu'il y a des aspects un peu durs. Qui est donc l'alcool, les violences...
La drogue, donc ?
La drogue.
Ouais, vraiment, à ce point-là.
À ce point, l'inceste est extrêmement présent. Ouais. Et donc, je voulais aussi raconter ce côté-là de l'île, qui est très présent et qui existe quand on y est.
Rétablir la vérité, d'une certaine façon, alors ?
Une vérité, rendre du relief à cet endroit qu'on a en tête, mais à travers toujours des représentations bidimensionnelles.
Ah bah oui. Le paradis sur Terre.
Paradis sur Terre.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, c'est un paradis, c'est vrai, mais c'est un paradis un peu plus complexe que ce qu'on imagine.
Sûr. Votre narratrice Cheyenne et sa sœur ont été violées par leur oncle. Le viol que vous décrivez presque banal à Tahiti. Il y aurait beaucoup d'histoires de famille avec ses secrets et puis des tabous aussi. La sexualité est souvent un peu forcée.
L'inceste est très présent. Je ne sais pas vraiment de quoi est-ce le fait, mais c'est dans beaucoup de familles. Et donc, c'était une chose que je voulais aborder absolument dans ce livre. La violence, cette violence-là. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la liberté, il y a ce territoire de grande liberté sexuelle, mais cette liberté sexuelle se paie d'une certaine manière, et notamment par l'inceste.
Vous craignez les lecteurs tahitiens qui vont lire votre roman ?
Pour l'instant, les retours ont pas été, sont assez bons.
Ça
donc
va, ouais.
Oui, personne ne s'est trop fâché.
Très bien, merci beaucoup Anna Krisch, merci beaucoup Anne,
merci.
À très bientôt.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et le livre d'Anna Krisch, Il faut se méfier des hommes nus, est paru donc en poche chez J'ai lu. La chronique des libraires, tous ensemble pour leur coup de gueule et leur coup de cœur. Déborah Damblon, pour la Belgique, un coup de gueule ou un coup de cœur ?
Ah ben un coup de cœur cette semaine, Emmanuel, pour un formidable roman, un roman qui est très juste, très beau, qui s'intitule Le champ de bataille et qui met en scène un père et toute sa famille d'ailleurs, face à un adolescent. Un adolescent qui a un comportement d'adolescent, vous voyez ce que je veux dire. Et tout ça, ça bouleverse le fragile équilibre que les parents étaient arrivés à construire. Et en lisant, eh bien, on se rend compte à quel point une famille heureuse, eh bien, en fait, c'est une illusion que la société est arrivée à nous vendre et à nous enfoncer dans le crâne. Et bien sûr, personne n'arrive à mettre ça en pratique. Mais ce qui est beau, ce qui est magnifique dans ce livre, c'est qu'en sortant, eh bien, on n'est pas découragé et on s'aime plus qu'avant.
C'est bien. Le champ de bataille de Jérôme Collin, belle initiative aux éditions Alary. En Martinique, Anne-Rosine Vosa, c'est un coup de gueule pour vous.
Oui, c'est un coup de gueule parce que toutes les nouveautés, notamment celle de L'Ecclésio par exemple, nous ne la recevrons pas le jour de sa sortie, tout comme nos collègues de l'Hexagone, parce que nous sommes encore considérés comme de l'export et à cause des problèmes logistiques, nous allons le recevoir après tout le monde, alors que même les campagnes médiatiques dans les médias nationaux battent leur plein dans l'Hexagone, nous ne l'aurons pas et je serai dans l'obligation de dire à mes clients qu'il arrivera dans les jours prochains, qu'il n'est pas encore arrivé. Donc c'est une situation qui ne favorise pas du tout les librairies indépendantes, et surtout en Martinique.
Exactement, et rappelons qu'il y a normalement la continuité territoriale. Bref, cap sur la Suisse, Claire Renaud, avec un coup de cœur, je crois.
Oui, après Drôle d'encyclopédie des animaux qu'Adrienne Barman nous avait présenté, maintenant elle arrive avec Drôle d'encyclopédie végétale. C'est un très beau voyage à travers le monde qui nous présente plus de 750 plantes,
oula,
mais toujours classées à sa façon, par exemple les amoureuses de l'eau ou les patriotiques. Alors, ça s'adresse autant aux férus de plantes ou futurs jardiniers que tous ceux qui n'auraient pas la main verte. C'est à offrir, à découvrir pour un véritable plaisir des yeux.
Bien, j'en connais plein dans l'équipe qui n'ont pas la main verte. Drôle d'encyclopédie végétale aux éditions La Joie de lire. Merci Claire, on termine avec un dernier petit coup de gueule. Marie-Noëlle Blé au Canada.
Oui, tout à fait, un coup de gueule Emmanuel. Un coup de gueule contre les filons commerciaux qu'on étire trop. Je pense en tête de liste au livre sur le houga, hein, cet art de vivre danois. C'est certes un concept formidable, mais j'ose croire que les livres sur le sujet auraient pu suffire pour convaincre les gens de décélérer, de se relaxer, etc. Récemment, un éditeur est allé jusqu'à proposer un coffret avec bouillotte et comme il les a appelés, des mugs câlins, des gens de petits chaussons pour tasse à café. Pour moi, on s'éloigne vraiment de l'essentiel de ce que doit être l'édition de livres pour rentrer de plein fouet dans la commercialisation de ce qu'on appelle au Québec des bébelles.
Des bébelles. Ça énerve beaucoup les libraires. Hein. On a déjà eu un libraire français, je crois, qui était énervé. Merci beaucoup à tous les quatre. On part en Belgique dans quelques instants. Deux ans après les attaques de Bruxelles du 22 mars 2016, presque jour pour jour, nous sommes allés à Molenbeek avec l'écrivain Foy de la Rouille pour un entretien en déambulation autour de son roman qui va probablement vous troubler, notamment à cause de la récente attaque terroriste en France. Et voici le nouveau titre de Bernard Lavillier. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Main d'acajou, barretto magnifique, les yeux fermés sur un transatlantique. Rêve de Ravel, de Mozart et de France. Combo cuivré, mais c'était pour la danse, pour la danse. pour la danse. Danse cambrée des tambours de Dakar, tourbillonner les pagnes du sabbat. Je rêve, je rêve. Dundunga et Rose, respectés de partout, des présidents intimes de Youssou, Youssounou. Si jamais tu te casses, si jamais tu te tires ailleurs, si jamais tu te lasses de ma voix et de ma chaleur, si jamais tu t'en vas sans un moment douceur, je serai sur tes pas, je suivrai ton odeur, ton odeur. Qui saigne et la forêt qu'on brûle, les caillapos vidés de leurs tombeaux, sauvages, sauvages. Voleurs de terre sur le petit chevau, de cartouchières croisées sur la poitrine, sauvages. De ma voix et de ma chaleur, si jamais tu t'en vas sans amour en douceur, serai sur tes pas, je suivrai ton odeur, ton odeur. Si jamais tu te lasses de ma voix et de ma chaleur, si jamais tu t'en vas sans un mot douceur, je serai sur tes pas, je suivrai ton odeur, ton odeur.
Bernard Lavillier, son nouveau titre Muse sur ICI Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Kérad.
Nous sommes en train de longer le canal qui s'appelle tout simplement le canal de Bruxelles, mais qui a cette particularité de couper la ville en une partie centrale, Bruxelles-Centre, plutôt blanche, et le quartier de Molenbeek, tristement célèbre, j'allais dire, où il y a une forte population d'origine immigrée, en particulier d'origine marocaine.
Bonjour, Fouad Laroui.
Bonjour.
Voilà, donc dans ce quartier Molenbeek, vous êtes attiré tout de suite par une enseigne. Qu'est-ce que c'est ça, le chien du chien?
Le chien du chien. En fait, c'est très curieux parce que vous savez que le surréalisme est né finalement ici, en Belgique. Oui. Et c'est pratiquement un art de vivre. C'est très naturel ici d'avoir des drôles de noms.
Avec une devanture verte, un peu sale et un chien jaune. C'est très bizarre. C'est
surtout
vrai que c'est
qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire en fait, le chien du chien. c'est Bruxelles, le chien du chien.
Avec des immeubles très récents, alors au bord du canal évidemment, puisque la ville là est finalement coupée en deux, hein, on peut dire, puisqu'on a l'autre versant de Bruxelles. Vous en parlez dans votre livre « L'insoumise de la porte de Flandre ». On va refaire le parcours de vos personnages. C'est un livre très dur sur le fond, mais qui met en lumière, qui met en perspective deux vies différentes.
Oui, parce que en fait, le personnage principal, c'est une jeune femme, une jeune belge d'origine marocaine, qui s'appelle Fatima, mais qui est réellement très belge dans sa tête. Elle a fait d'excellentes études. Mais bon, elle est née à Molenbeek. Donc là, Il y a ce pont là-bas qui s'appelle le pont de Flandre.
Ouais,
qui
qu'on voit centre, là. Ouais.
Oui, qu'on voit d'ici. C'est assez emblématique parce que chaque matin, Fatima se lève, elle se réveille à Molenbeek, elle enfile une tenue, allez, disons, islamique, je ne sais pas très bien comment on peut dire ça, c'est une espèce de burqa.
Le hijab, c'est ça que vous dites dans le livre.
Ouais.
Tout de noir vêtu.
Tout de noir vêtu. Ben, elle sort de Molenbeek qui est là. Et puis lorsqu'elle passe ce fameux pont, elle entre dans un autre univers qui est ce qu'on appelle ici à Bruxelles, Bruxelles 1000, c'est le code postal en fait. Et Bruxelles 1000, c'est le Bruxelles branché, blanc, historique, qui est quasiment un autre monde.
Ah, vous entendez des petites éoliennes en fait, qui longent le canal aussi, de toutes les couleurs, vert, rouge, jaune, bleu. C'est très étrange et c'est très moderne, c'est très bobo, comme on dit maintenant, avec ces immeubles récents. C'est pas du tout l'image de Molenbeek qu'on se fait à travers le monde, avec un quartier complètement dépravé, violent.
Oui.
C'est pas ça, en fait.
Non, je me suis fait gentiment engueuler, si je puis dire, par des lecteurs belges qui habitent à Molenbeek. Les Belges blancs qui habitent à Molenbeek sont en général très contents d'habiter à Molenbeek. Vous entendez les
Qu'est-ce que c'est ça,
les éoliennes
C'est les éoliennes, il y en a qui grincent beaucoup.
Des éoliennes de toutes les couleurs, il n'y a qu'à Bruxelles ou en Belgique qu'on peut trouver ça. Et vous avez ça?
Et ça grince. Ah et là, il va falloir entretenir les éoliennes.
Il faudrait mettre de l'huile dans les éoliennes.
Alors là, voilà, on arrive sur le pont de Flandre. Alors, justement, votre personnage est une étudiante brillante. Elle se sent surveillée, elle se sent sous contrôle. Et donc, tous les matins, elle part de chez elle, dans une rue qui est derrière, exactement où nous sommes là, ici à Molenbeek. Elle va traverser ce pont et elle va aller de l'autre côté de la ville, vers la place de la Bourse.
Oui.
Et elle va fréquenter un lieu infréquentable. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'elle est vêtue de noir par vengeance.
Elle a l'impression d'être cernée, c'est le regard. Le regard des autres, le regard des hommes. Dans certaines rues, par exemple, là où nous marchons, par exemple, les deux dames qui viennent à notre rencontre sont effectivement voilées, vous voyez bien. Dans cette rue, tous les magasins, tous les cafés, c'est pas d'ailleurs, c'est plutôt agréable à l'œil, c'est pas désagréable, mais vous voyez que tout est plutôt marocain, nord-africain, maghrébin. Alors elle se sent cernée par le regard des autres. Elle peut pas ici se promener, je dirais en jupe, elle peut pas se promener, voilà.
Donc elle passe devant ses devantures, elle va s'arrêter comme ça, elle va constater finalement cette vie-là, et puis de l'autre côté donc du pont, qui est derrière nous maintenant, elle va arriver dans un sex shop, car elle est la vedette de ce sex shop, puisqu'elle se déshabille tous les jours, et c'est ça sa vengeance. Elle dit « je me venge de ceux qui rêvent de m'emmurer ».
En fait, sa vengeance est double. Elle se venge doublement. Elle est entièrement vêtue pour ceux qui veulent l'avoir vêtue. Elle va se dévêtir pour ceux qui veulent l'avoir nue. Parce que finalement, il y a cette double injonction. Elle est très intelligente, Fatima. Elle a compris qu'il y a toujours une double injonction de la part des hommes. Soit tu te vêtiras entièrement, soit tu te dévêtiras. Mais, et c'est ça l'autre aspect de sa vengeance, ceux qui la voient nue, qui doivent payer pour la voir nue, ne peuvent pas la toucher. Et c'est ça, elle manipule les uns et les autres.
Pendant que l'on circule dans Molenbeek, ici à Bruxelles, avec Fouad Laroui, qui est l'invité de la librairie francophone aujourd'hui, pour cette déambulation dans Bruxelles, on va écouter nos libraires, Fouad, qui ont lu votre livre et qui vont nous dire ce qu'ils en ont pensé. On retrouve Claire Renaud. Qu'avez-vous pensé de ce livre, Claire ?
Oui, alors c'est un livre qui se lit d'une traite. On apprécie le style mordant et ironique de l'auteur et puis son écriture est très visuelle, donc on y est. C'est un très beau cri de liberté à travers le portrait de Fatima qui est belle, rebelle, érudite et qui n'entre dans aucun stigmate. Cependant, j'aurais voulu que Fouad Laroui aille un peu plus loin dans ce portrait de femme.
De Molenbeek, on part au Québec. Marie-Noël Blé, quel est votre avis, vous ?
Oui, ben je rejoins un peu le commentaire de Claire. Les premières pages laissent bel et bien entrevoir le récit d'une jeune femme insoumise et brillante hein, qui prend des risques pour être elle-même. On pense vraiment lire l'histoire de son émancipation, de son parcours. Et en fait, c'est pas tout à fait ça, ou en fait, c'est pas assez ça. Par contre, la dualité du personnage féminin est très intéressante, mais à mon sens, tout le reste manque un peu de nuance. Ce que j'ai bien aimé toutefois, ce sont les réflexions très pertinentes sur les contradictions des pratiques religieuses, et ce, quelles qu'elles soient.
Thank you. Alors votre personnage dira aussi « Je me venge, mes sœurs afghanes, iraniennes, marocaines, je me venge de Fawzi ». Fawzi qui lui va la suivre, qui va faire le parcours que nous sommes en train de faire en ce moment même, et il va basculer. Parce que il constate donc évidemment que son amoureuse, sa future femme, selon lui, se déshabille comme ça, et toute la ville, tout Bruxelles, lui paraît impudique.
Oui, ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est qu'il y a 200, je les ai comptés parce que j'ai habité à Bruxelles, il y a 220 statues à Bruxelles de femmes nues. Partout, un peu partout.
220 statues de femmes.
Je les ai comptées.
Il y a un petit garçon nu aussi. Hein.
il y a le mannequin piste. Ouais, d'ailleurs, il y a une petite fille pas loin aussi qui fait la même chose. Mais si vous voulez, tout à coup, il va s'apercevoir qu'il y a partout, qu'il y a vraiment partout des statues de femmes nues. Et là, il va se dire, mais c'est ça en fait. C'est elles, ce sont ces statues dévêtues, c'est elles qui poussent nos femmes à se dévêtir. On comprend qu'il est dans un délire absolu.
Donc il bascule et il tombe dans l'acte terroriste. Et là, Foy de la Rue, on peut se poser pas mal de questions, parce que on peut se dire aussi que vous lui trouvez des circonstances atténuantes. On peut se dire que vous lui trouvez des excuses.
En fait, si vous voulez, ce n'est pas un acte terroriste. C'est ça le fond.
Bah quand même.
Non, c'est le... Vraiment...
On va pas tout raconter, mais il y a assassinat quand même.
Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Il y a un label... qu'on plaque surtout. Tout est devenu terroriste. Mais dans l'idée, si on s'en tient à une définition exacte, terroriste consiste à vouloir terroriser. C'est-à-dire, on fait exploser une bombe un peu partout pour terroriser tout un peuple, toute une ville, etc. C'est pas du tout le cas de Fawzi. Et c'est là, ça c'est aussi une thèse qui me tient à cœur, c'est que la plupart de ce qu'on appelle maintenant des actes terroristes, ce ne sont pas des actes terroristes, ce sont des actes absolument horribles, etc. Lui, si vous voulez, il va finir par assassiner quelqu'un. C'est un assassinat, c'est horrible. Mais il n'a pas l'intention de terroriser qui que ce soit.
Donc vous montrez que le danger est partout, alors comme ça, avec ce livre, avec ces loups solitaires, déséquilibrés, qui peuvent passer à l'acte parce qu'ils se sentent, qu'on a bafoué leur identité, leur religion, peu importe, et à un moment, boum.
Oui, mais justement, ces gens-là, c'est leur faire trop d'honneur, d'une certaine façon.
Ouais.
Les appeler terroristes, de croire qu'ils ont une analyse du monde, c'est faire trop d'honneur à ces gens-là que de les appeler terroristes, comme s'ils avaient une conception universelle d'une espèce de guerre, des civilisations, etc. La plupart, c'est des paumés. D'ailleurs, ceux qui venaient de Molenbeek étaient des petits criminels.
Voilà, on va rejoindre le pont. Merci beaucoup, Foy de la Rue. Merci pour cette balade dans Molenbeek avec... cet autre regard sur la ville de Bruxelles, sur cette partie de la ville de Bruxelles. C'est important aussi de rétablir la vérité.
Oui, merci à vous. Merci.
Merci, Fouad. L'insoumise de la Porte de Flandre est parue aux éditions Julliard.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Et avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone. Voici le groupe Junior, mené par la fille de Jean-Marie Gustave Le Clésio, avec un extrait de Panique.
Ça me fait froid dans le dos. Je perds mes moyens, j'ai plus de mots. Quand dans ce grand bain, ce bain de foule, je sens soudain que je coule. Je retiens mon souffle. Je me retiens. C'est physique. Comment choper le truc? Je te vois, je panique. J'ai des frissons, j'ai des goulines. Le cœur qui cogne dans ma poitrine. Quand dans ce trou noir de monde, je sens tout à coup. Que je tombe, je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique. Comme un choc électrique. Je te vois, je panique.
Junior, Panique, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Henri-Marc Mutel avec Gilles Gaillard et Rémi Quincé à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse, René Mikkels avec Valérie Le Put en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguet au Canada. La semaine prochaine, autre émission exceptionnelle avec Dany Laferrière pour un livre dessiné absolument incroyable et la seconde partie de notre entretien exclusif à Séoul avec Jean-Marie Gustave Le Clézio. Bonne semaine, bon week-end.